énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
démocratie,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
L'avenir n'appartient à personne, il n'y a pas de précurseur, il n'existe que des retardataires. Et c'est pour cela que les idées doivent être brassées. À Délirium environnemental cette semaine, une émission inversée. En première partie, on s'entretient avec M. André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. On parle bien entendu des événements de smog hivernal que le Québec a connus cette semaine, mais aussi de la commission de coopération environnementale de l'ALENA et qui sait, du CHUM, pourquoi pas. On revient ensuite à nos bonnes vieilles habitudes et à notre revue de presse hebdomadaire de l'actualité environnementale. Cette semaine, la grippe aviaire, est-ce l'arrivée de la pandémie? Biodiversité, bah, c'est la catastrophe, les amis. Écosystème aquatique, une santé qui s'améliore pas. Et ma foi, bien d'autres choses encore. Et on termine, bien entendu, avec nos classiques coups de cœur, coups de masse et au calendrier de la semaine. Grosse semaine, il y a des choses à dire. Ma foi, bienvenue, chers auditeurs. Nicolas Milo, cette semaine, à l'animation pour une autre émission fort chargée. Sofiane Legendre et Nicolas Mainville font relâche cette semaine. Relâche, c'est un bien grand mot. J'ai donc l'honneur de vous présenter deux excellents chroniqueurs qui ont remué, malaxé, digéré l'actualité environnementale de la semaine. Messieurs Hugo Lachapelle et Patrick Bonin, vous allez bien, messieurs?
Certainement, bien le bonjour.
Bien le bonjour.
J'ai aussi l'honneur de vous mentionner que nous avons un invité surprise en studio, Monsieur Louis-Joseph Saussier, gagnant d'un concours, celui de l'auditeur en studio. Et oui, il aura l'immense honneur d'être avec nous pendant l'émission et, s'il le veut, de commenter les nouvelles. Aussi, je vous rappelle que M. Étienne Côté-Paluc qui est derrière la régie cette semaine et il est également notre webmestre, car Délirium environnemental, c'est aussi un site internet et une cyberlettre qu'on envoie chaque semaine à des centaines d'auditeurs. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste d'envoi, je vous invite à aller visiter notre site, le www.radiodelirium.net.
Quelle entrée,
hein? On est déjà essoufflé. J'ai pris goût la semaine passée à commencer avec une petite touche éditoriale. Eh bien, délaissons les vestiaires de la Ligue nationale de hockey et je vous amène cette semaine à Chappé.
Mais qu'est-ce que Chappé?
Chappé, une petite municipalité située en Abitibi, à l'ouest de Chibougamau, et qui est aux prises avec un projet, ma foi, un peu unique au Québec, celui d'un projet de chantier. De chantier pour des munitions militaires, des munitions qui sont fabriquées par SNC Tech, filiale de SNC Lavalin.
C'est une manière de réutiliser les copas blancs, ça?
Peut-être. Et je vous demande, dans le fond, cette... Avez-vous premièrement conscience qu'au Québec, si vous désirez acheter une munition de calibre 155 permettant,
C'est gros, 155, c'est un bazooka, c'est quoi?
C'est un 155 mm, alors 15 cm la dimension de la balle. Eh bien, au Québec, non seulement on en fabrique, mais on en vend et on en fabrique beaucoup. Et SNC Tech a une usine, entre autres à Le Gardeur, en banlieue de Montréal, qui fabrique justement ce type de munitions-là, en plus de fabriquer plein d'autres types de munitions, pour... Eh bien, l'industrie militaire, principalement états-unienne. Eh bien, cette compagnie SNC Tech, filiale de SNC Lavalin, envisage de créer un chantier de 400 km² tout près de la ville de Chappé, la municipalité de Chappé, en Abitibi. Je vous dis 400 km², par exemple, le parc du Morford, c'est 58 km². Le parc des îles de Boucherville, 8,14 km². Le parc des Grands Jardins, quand même un grand parc au Québec, 310 km². Donc, on consacrerait 400 km² de territoire québécois au tir, à des essais balistiques de munitions qui servent à faire la guerre.
Du gros calibre, là.
C'est du gros calibre, parce qu'on parle de ces munitions-là parce qu'on ne peut pas faire des tests à l'intérieur. On aimerait pouvoir faire des tests de portée de 35 km.
Mais ça perce les murs, donc on ne peut pas le faire à l'intérieur.
Et voilà. Eh bien, pourquoi je vous parle de ce sujet-là? Bien, premièrement, c'est pour vous mentionner une ingérence, ma foi, intolérable au sein du ministère de l'Environnement. Madame Madeleine Poulain, qui est sous-ministre au ministère de l'Environnement, qui est responsable de la Convention de la baie James et du Nord québécois, une convention qui a été signée avec les peuples autochtones, dans le fond, pour gérer ou les inclure, soi-disant, dans la gestion du Nord québécois.
Ou et leur donner, ouais, tout ça.
Les inclure, entre parenthèses, disons. Eh bien, cette Madame Madeleine Poulain-là, inutile de rappeler son nom, eh bien, en décembre dernier, présidait une commission de cette convention-là, donc de la baie James, où on devait analyser le projet. Et les premières recommandations de la commission étaient totalement négatives. La population de West Winnipeg, entre autres, ne veut pas le projet. Les populations blanches également du coin ne veulent pas le projet. Mais sous les pressions de SNC Tech, eh bien, Madame Paulin a accepté de remettre de 2 mois le dépôt de la recommandation de la commission pour laisser le temps aux promoteurs d'aller chercher des alliés dans la population.
Et surtout que, de ce que j'ai compris, elle n'aurait pas dit à ceux qui étaient les adversaires du projet, justement, qu'il y avait un délai de 2 mois.
Et voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on donne complètement avantage aux promoteurs, à celui qui défend l'intérêt économique de la chose, et tous ceux qui défendent, et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on ne parle pas uniquement d'intérêts environnementaux, mais il y a des intérêts sociaux, voire même des valeurs humaines très, très basiques qui se retrouvent dans ce dossier-là, okay. Et on n'a pas donné du tout avantage à ceux qui défendent ces valeurs-là de bénéficier d'un même avantage.
Évidemment, on parle des cris justement de Waswanipi, des Amérindiens qui parlent pas nécessairement français ni anglais et qui, de ce que j'ai cru comprendre, auraient signé certains papiers sans savoir même pas quel était le contenu de ces papiers-là, n'avaient pas de copie eux-mêmes de ces papiers-là. Donc, c'est un petit peu louche la façon qu'on a essayé de passer ce projet-là.
Eh bien, en plus de cette façon d'agir du ministère de l'Environnement, eh bien, c'est important aussi de se rappeler qu'on est dans un contexte où le rapport Coulombe nous indique qu'il faut gérer la forêt québécoise autrement. Ce projet-là nous dit qu'on va sacrifier 400 km² de terre québécoise à, dans le fond, absolument rien d'autre que d'être sacrifié pour un champ de tir, des essais balistiques. On est aussi dans un contexte où le Québec est en retard, mais de façon magistrale, en ce qui concerne les aires protégées au Québec. On est sous la moyenne des pays occidentaux. Monsieur de la Société nationale des parcs était venu nous en parler il y a 2 semaines. Monsieur Gagnon était venu il y a 2 semaines nous montrer à quel point on est en retard. Mais avant tout, on veut faire une activité qui favorise la production d'armes. Je crois que c'est un des points centraux. Alors que on sait que le Québec et les gouvernements québécois se targuent depuis, entre autres, les manifestations contre la guerre en Irak, d'être un peuple différent en Occident, qui a des valeurs de paix, eh bien, c'est le type d'action qui montre que on ne suit pas nécessairement totalement. Oh, et on a un commentaire de notre invité de la semaine.
Oui, spontanément. Je vais utiliser mon droit de parole que je viens d'acquérir presque à mon insu. Oui, Nicolas, ce que tu dis, ouais, c'est à proprement parler grave. C'est vraiment grave parce que ça nous amène à nous poser des questions sur le mandat même du ministère de l'Environnement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que devrait faire le ministère de l'Environnement sinon être le garant de la protection de l'environnement? Mais là, ce qu'on constate, et puis moi personnellement, c'est pas la première fois que j'entends parler de telles actions du ministère qui travaille en coulisses contre des environnementalistes pour cautionner une certaine exploitation du patrimoine forestier. Mais je veux dire,
dans quel pays on vit?
Oui, exactement.
Parce que ce qui est frappant dans ce cas-là, c'est qu'on se rend compte que la logique économique prend le dessus partout et même au sein des institutions qui devraient défendre les autres intérêts, ou du moins représenter ces intérêts-là. Donc, c'est ma foi. Et ce qui est un peu désolant aussi, c'est que pour Chappais, ce n'est pas l'unique cheval de bataille pour les opposants. Présentement, cette petite ville-là de 1800 habitants est aux prises avec un projet de méga porcherie qui devrait amener 125 000 porcs dans la région. À cause du moratoire qui a été ou qui sera levé sous peu. Donc, il y a un projet aussi qui entoure cette municipalité-là d'une méga porcherie qui s'installerait dans le coin. Et encore une fois, ben là, on a tout lieu à se demander comment le ministère de l'Environnement, qui est impliqué de près dans un dossier comme celui-là, va aller défendre des intérêts, mon Dieu, complètement à l'opposé des considérations économiques, et dans un point aussi qui a grandement besoin d'être aidé dans ces défenses d'intérêts-là.
Parce que moi, souvent, ça m'amène à penser que le ministère de l'Environnement se donne presque pour mandat d'y aller pour la fameuse atténuation des impacts environnementaux, mais d'une exploitation ou d'une exploitation de l'environnement qu'on considérait comme inéluctable. Mais en fait, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas le garant de la protection de l'environnement ou est-ce qu'il est là pour cautionner et accompagner une exploitation de l'environnement?
C'est un peu en fait le phénomène qu'on a vu au cours des dernières années où, entre autres, dans ce cas-ci, on parle de groupes environnementaux dont le Réseau québécois des groupes écologistes, l'Action boréale avec Richard Desjardins, ainsi que le Mouvement collectif pour la sauvegarde et l'observation des écosystèmes du Nord du Québec. Donc, vous voyez, c'est des groupes environnementaux qui prennent le relais de ce que devrait faire le ministère de l'Environnement. Donc, on coupe dans le ministère de l'Environnement, on délègue de plus en plus aux groupes environnementaux pour qu'ils défendent le territoire, mais ces groupes-là n'ont pas plus de moyens. On se souvient encore une fois qu'ils ont été coupés, entre autres, coupeurs de 16 millions au dernier budget au ministère de l'Environnement au Québec.
Puis moi, ce que je vois, c'est que non seulement ils se délaissent ou ils délèguent leurs responsabilités à des groupes qui ont d'abord moins les ressources, mais ce qui est encore plus grave, c'est quand le ministère de l'Environnement travaille, comme je disais au départ, en coulisses, mais contre les intérêts environnementalistes. Et ça me paraît mais complètement aberrant. Tu sais, puis je veux pas dire par là que le ministère de l'Environnement devrait se faire l'apôtre de la conservation des écosystèmes à tout prix. Tu sais, je comprends qu'on doit vivre avec une certaine exploitation de nos richesses naturelles, mais son mandat fondamental, merde.
Bien, messieurs, content de voir que cette petite nouvelle d'arrière a semé autant de mon Dieu, d'émotions dans le studio. On fait une petite pause. Au retour, Patrick Bonin a l'honneur de parler avec monsieur André Bellil de l'actuel PA au sujet de, mon Dieu, la qualité de l'air qui, la semaine dernière, laissait visuellement à désirer. Bien, une semaine où la piètre qualité de l'air ne pouvait pas être plus évidente. Si vous avez eu la malchance de rouler ou de rouler en transport en commun, bien entendu, sur le pont Champlain, et bien vous pouviez avoir le plaisir de ne pas voir Montréal, chose qui arrive, ma foi, trop souvent par les hivers. Pour couvrir ce dossier des plus préoccupants, mais aussi beaucoup d'autres questions qui ont lien à la qualité de l'air au Québec, Patrick Bonin a le plaisir de s'entretenir avec André Bellil de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique.
Monsieur André Bellil, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien, et vous?
Très, très bien. Peut-être juste avant de tomber dans le vif du sujet, soit le smog, en fait, il y a plusieurs sujets sur la table aujourd'hui. Peut-être nous rappeler un petit peu qu'est-ce que la QLPA, qui est un des plus vieux groupes environnementaux du Québec?
Ah, ben d'abord, la QLPA, c'est un groupe de citoyens que je qualifierais d'ordinaire, malgré qu'on fait de quoi un peu extraordinaire. La QLPA existe depuis juillet 82, donc on termine notre 23e année. C'est d'abord un groupe d'éducation populaire qui vise à comprendre et à vulgariser les problèmes qu'on connaît en termes de pollution atmosphérique, mais surtout les solutions qu'on doit y apporter.
Donc, on va peut-être commencer par les problèmes. On l'a tous vu, ceux qui sont dans des agglomérations urbaines, qu'on a eu d'énormes problèmes de smog encore ce mardi. C'était le smog à Montréal. Et peut-être juste spécifier pour nos auditeurs, on a l'habitude d'avoir le smog en été, peut-être faire d'emblée la différence entre un smog d'été et un smog d'hiver. D'où vient ce smog d'hiver?
Le smog d'hiver, premièrement, là, il faut comprendre qu'on est dans un régime climatique différent que de l'été. Et là, selon nous, on a vécu une manifestation de réchauffement de l'atmosphère, à savoir là, une semaine très très douce et même presque chaude, si on veut, qui est tout à fait inhabituelle et qui est attribuable au réchauffement de l'atmosphère, qui a amené par le fait même beaucoup d'évaporation dans l'air, donc un taux d'humidité important.
Donc.
Et ça, il faut prendre ça en considération, c'est comme la toile de fond. Et à ça s'ajoutent les polluants de différentes sources. On a parlé abondamment des poêles à bois. Oui, les poêles à bois sont une source importante de particules, donc un des contributeurs les plus importants dans le problème de smog. Par contre, on a passé très vite par-dessus le secteur des transports et la base industrielle. Mais bon, voilà, le smog d'hiver est surtout composé de particules et de d'humidité dans l'air, comme on a vécu, et chaque gouttelette devient un trap à polluants, et ces polluants-là, bon, on les a dans le nez, et bon, les particules sont très importantes, mais ça implique à peu près toutes les sources, que ce soit le chauffage au bois, le raffinage dans les raffineries de pétrole, la combustion des huiles lourdes dans toutes sortes d'entreprises et d'institutions, et le secteur des transports aussi. Alors, c'est toutes les sources confondues qui vont nous amener cette espèce de brouillard toxique là, dans lequel on baigne depuis une semaine au moins.
Donc là, lorsqu'on parle justement de brouillard toxique, on s'imagine qu'il va y avoir des répercussions sur potentielles, du moins sur la santé des gens, probablement des personnes qui sont plus à risque, entre autres, à ce niveau-là. Peut-être que ce serait intéressant de le mentionner aux gens, qu'on oublie que à part qu'on voit pas loin, il y a des répercussions sur la santé et sur le système de santé, en effet.
Oui, ben il y a eu des interventions des gens de la santé. Heureusement, là, c'est les gens de santé publique, autant à Montréal qu'à Québec, qui ont pris le lead dans ça et qui ont sonné l'alerte. Et on a entendu le docteur Louis Drouin, là, qui est responsable de la santé publique au Québec, qui est en onde depuis plusieurs jours là, sur toutes les radios, rappeler aux gens que ce que ça veut dire dans la réalité, c'est que tous ceux qui ont les poumons ou le cœur faible ont des problèmes et eux, ils le voient dans les urgences d'hôpital. Là, il y a une surabondance de cas d'urgence de 10 à 12 %. Donc là, on voit qu'il y a plein de problèmes et là, on parle pas juste de 2-3 personnes, on parle de centaines de personnes qui se sentent mal à l'aise et d'autres que c'est vraiment rendu très grave, dépendant là, des problèmes dont on parle.
Donc, étant donné que c'est grave pour la santé, il faudrait tenter de remédier à la situation. On a entendu beaucoup parler, comme vous l'avez mentionné, du fameux chauffage au bois. Je pense que ça a été couvert amplement par les médias. Chauffage au bois qui est autour d'environ de 47% selon les chiffres que j'ai en termes de contribution aux particules fines qui sont dans l'air. Mais on n'a pas beaucoup entendu parler des fameuses activités industrielles qui sont quand même là pour presque 33% de cette pollution-là. Et ça n'a pas été couvert du tout par les médias. On serait intéressant d'entendre parler un petit peu à ce niveau. Qu'est-ce que vous savez par rapport aux activités industrielles?
Bon, premièrement, nous, on était estomaqués de voir là, la couverture qu'on donnait au chauffage avec le bois de chauffage et on a questionné. Bon, premièrement, il y a l'attrait du nouveau. Là, les médias ont été fascinés par la nouvelle affaire, les poêles à bois qui causent tout ça. Bon, on a posé des questions à différents experts et nous, il y a des dossiers qu'on savait là, sur lesquels on travaillait puis pour lesquels on avait des informations qui nous amenaient à être un peu sceptiques là-dessus. Entre autres, peu de gens savent que dans l'année qui vient de se terminer, on a fait un bond prodigieux dans la combustion de l'huile lourde dans les procédés industriels comme les pâtes et papier pour chauffer de grands édifices comme les écoles, les hôpitaux. On a fait un bond là, de au moins 300 000 tonnes dans la combustion de ça. Et qui dit combustion de bunker, là, d'huile lourde, ben dit émission importante de particules. Alors, on a demandé au ministère de l'Environnement, êtes-vous capable de faire la distinction entre les particules de poêle à bois et les particules produites lorsqu'on brûle du bunker? Ben non, sont pas capables. Alors, on a dit, si vous n'êtes pas capable de faire la différence et qu'on sait qu'il y a un bond important dans l'utilisation du bunker pour chauffer des bâtisses, puis qu'à Montréal, c'est un centre où on en utilise beaucoup, en plus qu'on a beaucoup de raffinage, est-ce qu'on peut pas penser qu'il y aurait une partie importante de ça? Et là, ils sont obligés d'admettre que oui, le message s'est emballé. Le poêle à bois demeure une source importante, mais les autres sources sont plus importantes que ce qu'on en disait.
Peut-être juste spécifique, parce qu'il n'a pas fait particulièrement froid cet hiver. À quoi est due cette augmentation-là de consommation d'huile lourde ou de debunker de mazout lourd?
Ben, en fait, il faut voir que les gens qui consomment des combustibles fossiles, comme les grandes institutions, les hôpitaux, les universités ou les compagnies papetières, ont le choix, parce qu'ils ont déjà les deux systèmes d'installer, de recourir au gaz naturel quand le prix est bon. Et si le prix du gaz monte, ben, on va recourir au bunker parce que s'il y a une économie à faire là. Et là, la question des émissions atmosphériques est tout à fait absente de cette réflexion-là. Alors, le prix du gaz a augmenté de façon substantielle au cours des deux dernières années, et ça s'est traduit par un bond substantiel de recours aux bunkers pour chauffer les édifices. Et malheureusement, c'est ça. Et ça vient démolir le mythe là, où on nous dit que quand on utilise le gaz naturel, on fait disparaître le pétrole ou le charbon. Non, c'est tout à fait lié. Dépendant des prix, on pourra passer d'un à l'autre et il n'y a pas de gain si clair que ça avec le gaz naturel.
Donc, le topo est là, c'est clair. Il y a les activités de chauffage, les activités industrielles. Il y a également le transport et on sait que l'AQLPA a présenté une requête à la Commission de coopération environnementale de l'ALENA récemment concernant le fait que le Québec ne respecterait pas justement ses propres lois, ses propres règlements en termes d'inspection des véhicules automobiles. Et vous avez déposé cette requête-là. On a eu la réponse la semaine passée. On prend une petite pause et on revient avec justement la réponse du Québec et du Canada. Pourquoi, dans le fond, on n'a pas d'inspection obligatoire des véhicules au Québec.
sommes de retour à Délirement environnemental, toujours avec André Bellil, président de l'AQLPA, l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique, qu'on parlait avant juste la pause du fameux smog montréalais. On en était rendu à essayer de comprendre un petit peu l'aspect de la contribution des véhicules, parce qu'on n'en a pas encore parlé de ces fameux véhicules-là qui sont quand même des sources de polluants. Et ce pourquoi on parle présentement à M. Bellil, c'est parce que justement la Commission de coopération environnementale de l'ALENA a reçu une plainte de l'AQLPA, l'AQLPA qui disait justement que le Québec ne respectait pas ses propres règlements en termes d'inspection des véhicules. M. Bellil, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu pourquoi vous avez déposé cette plainte-là à la Commission de coopération environnementale?
Bien, tout d'abord, parce qu'on en avait marre là, de se faire promettre, ministre de l'Environnement après ministre de l'Environnement, l'implantation d'un programme d'inspection et d'entretien obligatoire des véhicules automobiles qui est élémentaire si on veut réduire la pollution automobile. Là, si on ne s'assure pas que chaque véhicule fonctionne le mieux qu'il peut, ben il y a 4 millions de véhicules qui sont autant de sources de pollution qu'on laisse sans contrôle. Il y a une loi qui existe depuis 1986 qui dit que tout véhicule sur la voie publique doit être muni d'un système anti-pollution en état de fonctionner. Mais la seule façon de vérifier si c'est le cas, c'est par un programme d'inspection. Alors, on nous a promis qu'il y aurait des problèmes d'inspection, mais on n'en voit pas le début du commencement. Par contre, les problèmes de pollution de l'air, ça s'aggrave de plus en plus, et là, je pense que ça ne pourrait pas tomber plus à pic que ça. Là, ils ont déposé leur réponse au gouvernement du Québec qui disait qu'on n'a pas besoin d'un programme d'inspection, qu'avec les nouvelles technologies, tout va être beau et on a déjà beaucoup d'améliorations. Ben, ils ont donné leur réponse au moment où on vivait l'épisode de smog le plus important de l'histoire du Québec et surtout en plein février. Donc, ça vous donne la démesure ou le paradoxe de la situation dans laquelle on est. Et nous, ben, on dit, ben, quand on a des lois en environnement, c'est bien la moindre des choses que le ministère de l'Environnement les fasse respecter.
Et quelle était la réponse? Pourquoi ils n'utilisent pas exactement cette loi-là? Pourquoi elle n'est pas appliquée?
Ah bon, là, on a la langue de bois la plus officielle, là, c'est que la loi, de la façon qu'elle est libellée, est difficilement applicable. On ne sait pas trop à qui demander, et là, je pourrais vous en aller long. Mais l'idée, c'est pas ça. Que la loi soit mal écrite, c'est une chose. Mais la façon de respecter l'esprit de la loi, c'est bien simple. On n'a même pas besoin d'un texte de loi. On a juste besoin d'un programme d'inspection. On fait l'inspection des émissions, des véhicules, puis on pourra savoir s'ils rencontrent ou pas les normes d'émission. Puis si on n'est pas capable d'écrire ça enceinte, bien, on n'a rien qu'à le faire.
Donc, vous attendez, qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier-là une fois que la réponse, les raisons du Québec et du Canada ont été présentées, disant qu'ils ne pouvaient pas appliquer ces lois-là? Qu'est-ce qui va arriver avec la Commission de coopération? Va-t-elle faire quelque chose?
Bon, là, la Commission de coopération prend en délibéré la réponse du Québec et jugera si elle décide d'aller plus loin et demande des explications plus précises, et elle peut aller jusqu'à demander la composition d'un dossier factuel, ce qui obligerait le gouvernement du Québec, parce que là, on parle des deux gouvernements, mais le gouvernement canadien là-dedans est très, je dirais, presque artificiel, parce que c'est vraiment le Québec qui doit répondre, et le gouvernement du Canada, c'est la courroie de transmission, si vous voulez. Donc, le gouvernement du Québec aura, si jamais il y avait à répondre à un dossier factuel, à répondre très clairement à toutes les questions. Pourquoi on a dépensé tant d'argent pour rien faire? Comment ça se fait que les problèmes de pollution de l'air ne s'améliore pas et que vous prétendez que le programme d'inspection ne serait pas utile? Et là, ça pourrait devenir pas mal plus difficile. Et j'ose espérer que la commission va aller dans ce sens-là, parce que justement, à cause de l'épisode de smog qu'on vient de vivre, faut prendre ces problèmes-là au sérieux. Il faut arrêter de nous dire, on va tout faire, là, on a des beaux plans, mais ces plans-là, on ne les réalise jamais, puis on voit dans la réalité la situation se dégrader toujours un peu plus.
Donc, c'est un dossier à suivre. La QLPA est sur plusieurs dossiers et vous avez récemment pris position dans le fameux dossier du CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, dont on entend parler partout. En quoi la QLPA peut contribuer à ce dossier-là?
Ben nous, justement, au moment où on connaît des problèmes de qualité de l'air vraiment sérieux, là, autant en été et maintenant en hiver, ben on pense que les transports en commun, c'est aussi une solution très importante pour améliorer la qualité de l'air. Et il faut s'assurer qu'on ne ne dérange pas ou qu'on ne nuise pas au développement des transports en commun. Et là, quand on pense au CHUM à Outremont, ben on sait qu'il y a une gare de triage qui est en jeu, puis cette gare-là, ben où ces voies ferrées-là servent entre autres à l'AMT pour le train de banlieue de Deux-Montagnes. Et nous, ce qu'on dit, c'est que là, malgré toutes les histoires, il faut s'assurer d'être cohérent. Si on a des politiques qui visent à réduire l'étalement urbain, à réduire l'utilisation du véhicule, puis qu'on fait disparaître des rails et qu'on empêche le développement des transports en commun, on se tient dans le pied. S'il y a des alternatives au CHUM qui permettent, au contraire, de s'assurer qu'on va développer davantage les transports en commun, ben on a peut-être avantage à regarder ça. Alors, la position de la QLPA est simple. C'est que, par rapport à Outremont, on pense qu'il y a une menace qui pèse sur le développement des transports en commun, et cette question-là est prioritaire. Par rapport à l'autre choix qui est à Saint-Luc, ben on pense que c'est le contraire, ça peut favoriser les transports en commun, étant donné la localisation de cet hôpital-là déjà, ben on pense qu'on doit réfléchir sérieusement avec une perspective de développement durable dans le sens qu'on veut s'assurer qu'on développe en même temps le transport en commun plutôt que qu'y nuire.
Eh bien là, vous venez d'avancer un nouvel argument qu'on n'avait pas entendu encore, donc on est bon pour un autre 2 mois de tergiversation avec le dossier du CHUM, mais on va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler, entre autres peut-être de la fameuse commission parlementaire sur l'énergie au Québec que la QLPA a déposé un mémoire, mais malheureusement c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, M. André Bellil, le président de l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique.
Ben ça m'a fait plaisir et bonne fin de journée.
Et bonne journée à vous.
À la prochaine.
Au revoir.
Alors, c'était Patrick Bonin avec André Bellil de la QLPA. Vous pouvez aller voir toutes les informations sur cette magnifique organisation www.aqlpa.com.